Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Djamila Topin.
À la une de l'actualité, incident mortel à la base aérienne 511 de Ouagadougou. Le parquet militaire annonce l'ouverture d'une enquête pour situer les circonstances exactes du drame. Rencontre entre le président Damiba et l'ex-président Roch Kabore. Que faut-il en retenir? Le mouvement du peuple pour le progrès, MPP, donne sa grille de lecture. Éléments à suivre dans ce journal. Grande décision du Conseil supérieur de la défense nationale pour l'expert en sécurité Oumarou Paul Kualaga. Ces décisions visent à mettre l'accent sur la fonction de renseignement. Il est l'invité de ce journal. Ce sont les principaux titres. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur Radio Oméga. L'affaire fait grand bruit depuis hier. Deux femmes ont été tuées lors des tirs mardi nuit à la base aérienne à Ouagadougou. Ce mercredi, le parquet militaire a donné plus de détails dans un communiqué parvenu à la rédaction de Radio Oméga. On apprend, entre autres, qu'une troisième personne a été blessée. Des précisions avec Ben Abbé Capri.
Le procureur militaire a expliqué qu'un véhicule de marque Toyota RAV4 s'est retrouvé dans le dispositif des éléments de sécurité à la suite des alertes à la voix et des tirs de sommation qui n'ont pas été respectés. La sentinelle a été obligée de stopper le véhicule par des tirs alors que celui-ci fonçait tous trois sur le poste. Le procureur militaire indique s'être rendu immédiatement sur les lieux et une enquête a été ouverte afin de situer les circonstances exactes et les responsabilités. Il dit saisir ce malencontreux incident pour appeler la population à la coopération et au respect des périmètres de sécurité des installations sensibles. Mardi nuit, l'état-major avait aussitôt réagi quelques minutes après les tirs. Il avait indiqué qu'il s'agissait de tirs de sommation effectués à l'entrée de la base aérienne pour dissuader un véhicule qui tentait manifestement de forcer un barrage.
Et l'hebdomadaire Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi à Ouagadougou. Le Conseil a adopté un décret portant implémentation d'une unité de production pharmaceutique à Kokologo, suivant un extrait de Lionel Bilgo. Il s'exprime au micro de Momouni Tamboura et de Ibrahim Niaouni.
Cette note de cadrage décrit l'intérêt et les avantages de la mise en place du technopôle pharmaceutique de Kokologo, ainsi que les activités menées ou en cours pour l'opérationnalisation du projet. L'adoption de ce décret permet la création du dispositif institutionnel pour l'accélération de la préparation du technopôle pharmaceutique de Kokologo en vue d'une assise du Burkina Faso en termes de production de médicaments et autres produits de santé. Toujours au titre donc du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, un rapport relatif donc à deux décrets portant respectivement création d'emplois et nomination de chercheurs dans les emplois de directeur de recherche et de maître de recherche au Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST.
Parlons à présent de la rencontre entre le président Damiba et l'ex-président Roch Kabore. Roch Kabore est un homme épris de paix disposé à œuvrer pour la réconciliation nationale et il l'a une fois de plus démontré avec sa participation à la rencontre avec le président Paul-Henri Damiba tenue ce 21 juin à Kossiam. C'est la lecture de sa famille politique, notamment le mouvement du peuple pour le progrès qui dit attendre toujours la libération totale de Roch Kabore. Cette position de l'ancien parti au pouvoir a été donnée par Ludovic Bationo, secrétaire national chargé des secteurs structurés du MPP. Plus de précisions avec Adam Skaled Ouedraogo.
Un pas de géant dans le processus de la réconciliation nationale ou une mise en scène pour atténuer les pressions internes et celles de la communauté internationale, la rencontre entre le président Paul-Henri Damiba et les anciens chefs d'État Roch Kabore et Jean-Baptiste Ouedraogo divise l'opinion nationale et continue de susciter une vague de réactions. au sein du mouvement du peuple pour le progrès MPP, parti de l'ancien locataire de Kossiam, ont nourri l'espoir que cette rencontre soit le point de départ vers une libération totale de son champion. Ludovic Bationo, secrétaire national chargé des secteurs structurés du MPP.
Pour nous, avant la tenue de cette rencontre d'hier, et on se disait que la junte allait faire au moins l'effort de le libérer avant, et pour permettre au moins que cela crée une ambiance et une atmosphère d'échange, je dirais, dans la quiétude et la sérénité. Mais qu'à cela ne tienne, pour nous, après la rencontre d'hier, nous pensons que cela ouvre grandement la voie pour sa libération totale dans les toutes prochaines heures. Si véritablement on va dans le sens de ce que cela a envoyé comme symbolique et comme message.
Le tête-à-tête entre les trois personnalités a porté entre autres sur les questions sécuritaires, à en croire le communiqué de la direction de la communication de la présidence du Faso. Toute chose qui réhabilite Roch Kaboré et qui démontre à souhait, selon Ludovic Bationo, que ce dernier était sur la bonne voie dans la lutte contre l'hydre terroriste.
Malgré toutes les stratégies qui ont été faites, nous n'avons pas pu apporter des réponses et qu'aujourd'hui, des militaires même aux commandes connaissent les mêmes problèmes. C'est la raison qui vient nous confirmer qu'en décembre, lorsque le président Roch Christian Kaboré lançait l'appel pour l'Union sacrée autour des FDS, autour des VDP, autour de toutes les forces combattantes au Burkinabé de l'intérieur et de l'extérieur, pour que nous puissions venir à bout de dit terroriste, était un appel qui était véritablement à prendre au sérieux et qui méritait un écho favorable au sein des forces de défense et de sécurité, au sein des populations, au sein des Burkinabés de l'extérieur.
Tout en rejetant l'hypothèse d'une participation forcée de Roch Kaboré à cette audience au palais de Kossiam, le secrétaire national chargé des secteurs structurés du MPP ajoute que cette actualité vient souligner la hauteur d'esprit de l'ancien président Roch Kaboré et sa disponibilité à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale.
C'est une rencontre inutile entre le président Damiba et l'ex-président Kaboré. C'est un exemple que les plus hautes autorités montrent à la population. Chacun y va de son commentaire. Dans les rues de Ouagadougou, sur la rencontre entre le président Damiba et Roch Kaboré, renversé du pouvoir en janvier dernier. Leurs propos sont recueillis ce 22 juin par Maïmouna Kounaté et Gisèle Tirogo.
Vraiment, c'est une rencontre inutile. On n'a pas eu vent de ce qui s'est passé pendant cette rencontre. Donc, on attend toujours de voir ce qui va arriver par la suite. Mais honnêtement, je me dis que cette rencontre a été vraiment inutile.
Je pense que c'est juste une façade, juste pour plaire au peuple.
Je pense que c'est une très bonne chose. Cela va aider en tout cas à décrypter l'atmosphère. D'autant que des voix quand même s'élevaient pour demander la libération du président Roch Christian Kaboré.
Entre le président Damiba et l'ex-président Roch Kaboré, bon, c'est une bonne chose parce que ça va nous amener à vraiment se pardonner sur certains trucs et ça va nous amener à la réconciliation encore plus facile. Quoi.
Ce qu'il vient de faire là, en tout cas moi, hier j'ai vu ça, j'ai été très ravi parce que l'exemple ça vient de partout. Parce qu'on l'a vu en Côte d'Ivoire, il y a des présidents qui ont eu vraiment à faire des trucs, mais aujourd'hui ils vivent ensemble, ils sont ensemble.
Le réseau national de lutte anti-corruption, RENLAIC, a tenu ce mardi 21 juin une conférence de presse au sein de son siège à Ouagadougou. L'objet de cette conférence est de parler de la situation nationale du Burkina Faso et l'état de la gouvernance depuis le 24 janvier. Le secrétaire exécutif du RENLAIC affirme que 5 mois après la prise du pouvoir par le MPSR, il est au regret de dire qu'il ne voit pas de changement, suivant plutôt le compte-rendu avec Marie.
En donnant sa lecture sur la situation nationale du pays, le secrétaire exécutif du réseau national de lutte anticorruption estime que le président Damiba semble s'inscrire dans la même logique que son prédécesseur Roch Christian Kaboré. Sagado Nakanabo en veut pour preuve la nomination à la tête de l'État des amis et copains dans des sociétés d'État et des grandes institutions publiques.
Nous avons constaté que, en dehors du fait que le nouvel homme fort est un président en TI militaire et que Roch Christian était un civil en Faso d'Anfani, vraiment les résultats sur le terrain, nous ne parlons pas des effets de spectacle, des annonces, de tout le scénario qui se joue dans les grands bureaux à Ouaga, les nominations, les... Non, nous parlons vraiment de la question sécuritaire et de la question de la lutte contre la corruption.
L'attaque menée en mi-novembre contre des gendarmes à Inata, dans le nord du Burkina Faso, avait fait 57 morts. Un rapport avait été demandé par l'ex-président Roch Kabore qui, après examen du rapport, l'a immédiatement rejeté. Un nouveau rapport a été demandé. Toujours selon Sagado Nakanabo, jusqu'à présent, on n'a aucune nouvelle du nouveau rapport.
La première version a été refusée. La deuxième version a été à peine réceptionnée par le président. On se demande s'il a eu le temps de le refiler à son remplaçant ou si son remplaçant l'a trouvé dans les bureaux pour que 5 mois après, on ne dise aucun mot sur un tel rapport, alors que quand même c'est 57 gendarmes qui ont perdu la vie. On s'occupe de bien d'autres choses qui, à nos yeux, ne sont pas vraiment les préoccupations majeures des Burkinabés.
Au cours de cette conférence de presse, plusieurs autres questions ont été abordées, telles que la situation des déplacés internes, le salaire des ministres qui fait polémique et les différents audits. Le Renlac demeure convaincu que la transition gagnerait mieux à s'inscrire dans la culture de la transparence et de la recevabilité et de l'exemplarité en mettant au cœur de son action la lutte contre la corruption et la malgouvernance.
Autre actualité, rendons-nous dans la commune de Koubri où l'installation de la délégation spéciale fait des gorges chaudes. Cette délégation spéciale devrait être installée demain 23 juin et déjà des voix s'élèvent pour protester la constitution des membres. Deux camps sont actuellement à couteau tiré en ce qui concerne la place réservée à la coordination des femmes de cette commune. Une des parties était à la préfecture ce matin, Abdulaziz Azoulabou.
Des dizaines de femmes venues de plusieurs villages de la commune de Koubri ont pris d'assaut la préfecture en cette matinée de mercredi. Elles disent apporter leur soutien à Kourtimi Ouedraogo, coordonnatrice des femmes de Koubri. Cette dernière estime qu'elle devait faire partie des membres de la délégation spéciale de la commune au regard des textes qui régissent leur mise en place. Kourtimi Ouedraogo, coordonnatrice des femmes de Koubri.
Les textes sont clairs. À l'article 11 du décret de la délégation spéciale nous dit que c'est la coordonnatrice des associations féminines de Koubri qui doit rentrer dans la délégation spéciale. Au cas où je ne veux pas, je choisis une membre de mon bureau qui va rentrer. Mais si je veux, qui peut enlever mon nom? Donc j'ai dit à monsieur le préfet d'appliquer les textes. Voilà.
Sauf que les textes évoqués par Dame Ouedraogo stipulent également que lorsqu'une structure non étatique, coutumière, religieuse ou de la société civile connaît un conflit interne, elle est d'office exclue. C'est ce que nous a fait remarquer Julien Zanzé, préfet de ce département, lors d'un entretien. Selon ses explications, un groupe de femmes de cette même coordination serait en désaccord avec la responsable, lui reprochant un certain nombre de faits. Elles sont même allées jusqu'à bloquer la route nationale le lundi 20 juin dans la ville de Koubri, pour se faire entendre après avoir envoyé 2 notes au préfet et au haut commissaire faisant cas de leur protestation de la candidature de Kourtimi Ouedraogo. Il conclut en disant qu'au regard de la situation, sa hiérarchie a jugé bon de tout simplement s'asseoir à ce poste en attendant de trouver une solution. Tout compte fait, l'installation des membres de la délégation communale doit se tenir ce jeudi 23 juin. Des menaces de troubles de cette cérémonie sont faites de part et d'autre des deux camps, si jamais leurs doléances ne sont pas prises en compte. Une affaire à suivre avec la plus grande attention.
Et l'association burkinabé pour l'inclusion des personnes albinos ABIPA a célébré en différé la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme à Bobo-Dioulasso. L'objectif est d'amener la société à accepter les personnes atteintes de l'albinisme. Une célébration qui a permis de montrer au public les situations difficiles auxquelles les albinos font quotidiennement face. Ndiaye Ouedraogo.
C'est une mère en détresse qui prend la parole devant l'assistance. Son seul crime, c'est d'avoir mis au monde un enfant albinos, Adjaratou Diabo.
À sa naissance, mon bébé n'a pas eu son premier bain. Personne ne voulait le toucher, tout simplement parce que c'est un albinos.
Du fait de leur apparence différente, les personnes albinos sont victimes de diverses formes de stigmatisation. Certains se sont confiés à nous. Moussa Kouaté, époux d'une albinos.
Nous avons cheminé un parcours vraiment très difficile. Lorsque le mariage a été programmé, au sein de ma famille, même il y avait des discordances. Les gens n'étaient pas d'accord, soit disant que les personnes qui sont atteintes d'albinisme sont des gens qui sont maudites. Comme ce qui nous reliait, c'était un amour sincère. Moi, je me suis lancé. Je n'ai pas eu de regrets, quoi.
Abdul Aziz Fagma, parent d'élève.
Quand l'enfant partait à l'école, ses camarades se moquaient de lui en lui disant comme les tibouques du mal long, c'est sorti, c'est là. Vraiment bon, ça décourageait et puis on trouvait que c'est un enfant très malheureux. D'autres trouvent qu'il y a du bonheur dedans en étudiant, en gagnant une partie de son corps. Donc, ça en rencontre pas mal de situations. Il faut beaucoup accompagner l'enfant.
D'autres arrivent à surmonter toutes ces épreuves grâce à leur persévérance. Ils nous partagent leurs secrets.
Étudier, ce n'est pas quelque chose que pour les gens qui ont la peau noire. Bon, moi, j'étudie parce que je le veux. Et donc, je gagne des bonnes notes.
Déjà, l'handicap, c'est dans la tête. Avec ça, on peut aller de l'avant. Même les critiques, les commentaires négatifs, on ne fait pas attention. C'est vrai qu'on veut s'habiller comme tout le monde s'habille, être à la mode, mais on ne peut pas le faire parce que le soleil, c'est notre premier ennemi. Il faut accepter cela.
Cette journée pleine de témoignages sur la victimisation des personnes albinos a été organisée par l'ABIPA, l'association burkinabé pour l'inclusion des personnes albinos. C'est depuis 1999 que l'ABIPA s'est donné pour tâche de lutter contre toute forme de discrimination à l'endroit des personnes albinos. Sa présidente Salimata Somda affirme avoir mené une noble lutte.
Parce qu'au début, les crèmes solaires même, on les achetait. Aujourd'hui, Dieu merci, on a les crèmes solaires gratuitement et nous, ce que nous faisons aussi des affûtés gératifs de revenus, nous fabriquons du savon adapté à notre peau, du savon à base du miel. Donc, on le donne à moins de coût à nos membres. Aujourd'hui, avec les sensibilisations, les préjugés dans du monde.
Unis pour faire entendre nos voix, c'est le thème autour duquel a été célébrée cette journée. Ndiaye Ouédraogo Bobo, Omega Média.
La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, à travers son service promotion des assurés sociaux, tient la cérémonie de sortie de la 41e promotion en coupe couture. Au nombre de 24, ces jeunes filles sont aptes à contribuer au développement socio-économique du Burkina Faso. La cérémonie a eu lieu ce mardi à Ouagadougou. Plus de détails avec Yakuba Wilio et Ibrahim Niaouné.
À travers cette initiative, la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, vise à encourager l'employabilité des jeunes au Burkina. D'où cette formation en entrepreneuriat qui vaut aujourd'hui sa 41e promotion. Après 3 ans de travail, ces jeunes filles, en fin d'année d'apprentissage, se voient bien outillées pour entreprendre et servir la nation. La porte-parole des bénéficiaires démontre les réalisations faites durant la formation. Pascaline Kabouré, porte-parole de la promotion sortante.
L'année scolaire, on a fait tas de choses. On a cousu des pantalons, des chemises, et puis il y a la couture pour dames aussi. Je suis contente. On rend grâce à Dieu pour les 100%. Je suis contente.
La CNSS, à travers ce centre de formation, entend valoriser l'autonomisation de la femme en général et de la jeune fille en particulier. Antoinette Nana, marraine de la promotion, se dit fière des résultats engrangés et compte soutenir les jeunes filles.
Accompagner mes filles durant tout au long de leur vie. Je vais les accompagner moralement, physiquement, même financièrement si je peux, si j'ai les moyens. Je les souhaite une longue vie, une bonne progression dans leur vie, une bonne culture accompagne pour qu'elles puissent s'intégrer dans la vie. J'ai fait 38 ans de service ici, je connais le métier, je sais ce que ça vaut.
Quant à la responsable du service de la promotion des assurés sociaux, elle traduit sa reconnaissance à l'endroit du corps enseignant. Dorothée Saré, chef du service des assurés sociaux.
Cela, c'est une grande joie pour moi, vraiment une gratitude. Et je ne saurais remercier les encadreurs, surtout les professeurs, qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner les élèves. Cela est dû aux résultats bien faits et de leur engagement dans la profession.
100% au certificat de qualification professionnelle pour cette promotion sortante. Les 24 lauréates ont reçu des mains de la Caisse nationale de sécurité sociale une machine à coudre, une table de coupe-couture et du matériel didactique afin qu'elles puissent bien s'intégrer dans la vie active. Un défilé de mode des élèves avec des tenues conçues par les apprenantes et une prestation d'artistes ont ponctué l'événement. La sortie de la 42e promotion est prévue en 2023.
C'est ici que prend fin ce journal réalisé par Adama Kounatse à la présentation Djamila Setopa. Merci à vous de l'avoir suivi et restez connectés sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Marou Paul Kualaga, bonjour.
Bonjour, monsieur Roba.
Comment est-ce que vous réagissez à cette décision du Conseil supérieur de la défense nationale du Burkina de procéder à la création de deux zones d'intérêt militaire dans les régions de l'Est et du Sahel?
Quand on regarde en filigrane ces deux grandes décisions, je retiens fondamentalement qu'ici, on va mettre l'accent sur la fonction du renseignement sans pouvoir peut-être le dire de façon très explicite. Parce que la création des zones d'intérêt, c'est véritablement pour mettre cette fonction. Quand on lit les deux éléments, il n'y a que ça qui apparaît, même si de façon très explicite, on ne le dit pas.
Quel est l'intérêt, la pertinence d'une telle décision d'après vous?
Avec ces grandes décisions, on peut dire que désormais, c'est vrai qu'on peut toujours appeler à collaborer les populations, d'où la deuxième décision qui est la mise en place de la brigade, puisqu'on va revenir là-dessus, mais c'est surtout vraiment de passer à un niveau supérieur avec un niveau d'intervention où les forces de défense et de sécurité, avec la création de ces deux zones d'intérêt, mais qui sont en réalité des zones qui vont leur permettre non seulement d'intervenir sur la dimension de l'alerte précoce, mais de la prévention, mais aussi de protéger les forces et de concentrer les forces sur les deux zones qui sont les zones, je dis, au départ de la menace qui ont été plus ou moins l'objet d'attaques récurrentes. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle du Sahel, on parle de l'Est. Donc je pense que c'est un début avec ces deux zones, les quadrilles. Si on arrive à récolter un certain nombre de résultats probants, ça pourrait être un cas peut-être dupliqué avec les autres régions.
Les autorités militaires préviennent déjà qu'il serait interdit toute présence humaine et toute activité humaine dans ces deux zones d'intérêt militaire. Alors cela va nécessiter certainement des déplacements de population. Comment est-ce que vous voyez que cela pourrait être possible?
Il y a eu des réflexions sur cette question parce que quoi qu'on dise, pour nous qui travaillons un peu dans le domaine, nous savons qu'il y a toujours cette dimension, la triple dimension de la question de l'humanitaire, mais aussi de la question, le nexus humanitaire, développement et paix. Donc ce sont des questions qui ont été explicitées, qui ont été travaillées avec des scénarios. Donc cela semble forcément peut-être pour le moment me mettre à la place des forces de défense et de sécurité, mais pour avoir participé à un certain nombre d'activités et pour connaître un peu ce genre de suite. Ce sont des choses qui ont été prises en compte sans forcément essayer de révéler comment est-ce que les choses vont se passer. Toujours est-il qu'on espère que les choses se passent très bien, mais le défi majeur va être la protection justement de ces populations parce que dans l'évacuation de ces différentes populations, on le sait d'avance que ça ne sera pas aussi aisé, mais il y a, des schémas qui seront déjà, qui ont été déjà expérimentés et on pense que ceux qui volontairement voudraient quitter les zones pourront quitter. Il s'agira maintenant vraiment d'aller vraiment avec un cran à un niveau supérieur où la présence d'un certain nombre de personnes civiles pourrait peut-être gêner le travail de ces forces de défense et de sécurité. Donc, il faut faire des choix. Je pense qu'ils sont arrivés à ce stade-là. Oui, mais tenir compte aussi de la protection des civils et de certaines personnes qui n'ont pas forcément cherché à venir. Ça va être un défi, hein, parce qu'il y a des gens qui ne voudront pas partir. Je crois que la sensibilisation ou certains autocuteurs pourraient jouer leur partition pour que ça se passe comme il se doit.
Alors, dites-nous à présent, que dit de la création de la brigade de veille et de défense patriotique qui devrait encadrer l'action des VDP?
Ah oui, je veux dire, en fait, tout ça rentre dans la même dimension, hein, c'est la dimension du renseignement. On a compris à un moment donné que oui, les forces de défense et le tout sécuritaire ne pouvaient pas être la solution unique et unilatérale qui pourrait apporter une solution. Donc on a exploré la piste des volontaires de la défense de la patrie qui évidemment, vous le savez, aussi a été quelque part suscité, demandé par les populations à un moment donné, que ce soit les populations civiles, mais aussi dans certains milieux qui pensaient que les forces de défense et de sécurité à tous ne pouvaient pas résoudre cette question. En termes de maillage du territoire, ça c'est déjà le premier élément, mais aussi en termes de fonction de renseignement que ces volontaires pour la défense de la patrie connaissaient un certain nombre d'espaces et de territoires, si je peux employer cette expression, ou d'espaces qu'ils maîtrisaient très bien. Maintenant, à l'arrivée, c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques résultats, mais on sent aussi quelque part quelques critiques et pouvant même aller jusqu'à peut-être dire que dans certaines zones, ça a été aussi documenté, que la présence de les volontaires de défense et de la patrie souvent attirait ou était portée souvent comme des justifications des représailles des groupes extrémistes. Oui. Aujourd'hui, en mettant les contributions des populations, des brigades civiles, on va inclure d'autres personnes qui ne sont pas forcément des personnes armées. Et les autres acteurs qui vont intervenir vont beaucoup plus apporter du renseignement civil sans forcément être des porteurs d'armes.
Alors, ce sera la dernière question, M. Kualaga. Les chefs militaires appellent à l'ordre et mettent en garde contre les cas d'abandon de positions et de matériel des militaires. Alors, que faut-il comprendre par une telle mise en garde?
Ah oui, vous savez, si les forces de défense et de sécurité au haut commandement fait ces déclarations, ça veut dire qu'à un moment donné, contrairement à ce qu'on a pensé, qu'avec l'avènement des autorités militaires, on a déploré le fait qu'avec l'ancien régime, il y avait une sorte de démoralisation de la troupe. Il n'y avait peut-être pas forcément les ressources qui accompagnaient. Maintenant que les autorités militaires sont là, ils ont fait le diagnostic, ils ont compris qu'au-delà des ressources militaires ou des ressources qu'il faut mettre à la disposition des troupes pour pouvoir combattre le terrorisme, il y a quand même une certaine lecture quand même qui dit que certains, malgré tout ce qu'il y a comme engagement, mobilisation, contact avec les troupes, ne seraient pas forcément dans une dynamique de combat. Donc c'est un avertissement, c'est une façon de dire qu'ils doivent faire corps ensemble et que aujourd'hui plus que jamais ils ont un engagement vis-à-vis des populations et qu'il n'y a pas de raison que certains, comme on le dit dans d'autres, permettez-moi l'expression, certains mouillent le maillot que d'autres par contre semblent ne pas encore être enclenchés dans la dynamique.
Marou Paul Kualaga, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de la rédaction.